Bouclier antimissile, déclaration de Donald Trump à quelques heures d'une réunion prévue à la Maison-Blanche entre le vice-président J.D. Vance, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise. Emmanuel Macron prévient quant à lui qu'une violation de la souveraineté du territoire autonome entraînerait des conséquences en cascade qui seraient inédites. Les funérailles de plus de 100 membres des forces de sécurité tués lors des manifestations contre le pouvoir iranien réunissent des milliers de personnes à Téhéran. Des images de la télévision d'État les montrent agitant des drapeaux de la République islamique. Les opposants au régime et les organisations de défense des droits humains redoutent les procès rapides promis par le pouvoir judiciaire iranien pour les manifestants. Un responsable de la coordination rurale en garde à vue à Toulouse, il a été interpellé ce matin sur une manifestation près de l'aéroport de Blagnac. Il est entendu pour entrave à la circulation et organisation d'une manifestation interdite. Les mobilisations d'agriculteurs se poursuivent en région. Les tracteurs stationnés près de l'Assemblée nationale ont eux quitté Paris tôt ce matin. Deux motions de censure vont être examinées dans la journée par les députés, déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National. Les deux partis dénoncent l'accord de libre-échange que l'Union européenne signera avec les pays du Mercosur samedi, accord qui avait été rejeté par Emmanuel Macron. Le surendettement en hausse, le nombre de dossiers est reparti à la hausse en 2025. Il a bondi de près de 10% au point que la Banque de France a mis en place des effectifs supplémentaires pour leur traitement. Hachette rappelle un manuel parascolaire dénoncé par Emmanuel Macron destiné aux révisions du baccalauréat. Cet ouvrage décrit les victimes israéliennes des attaques du Hamas comme des colons juifs. La maison d'édition a reconnu un contenu erroné et a présenté ses excuses. À la Bourse de Paris, le CAC 40 est actuellement stable, plus 0,06% à 8352 points. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vais vous parler d'automobile. C'est un peu inattendu, mais évidemment, nous restons dans le cadre d'une émission d'histoire. Et les voitures dont je vais vous parler, ce sont les vieux tacos de nos aïeux.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros, prime maximum, certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault. À 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Il y a plus de 800 millions d'automobiles dans le monde actuellement, et d'ailleurs ça pose un problème que vous connaissez, notamment pour la gestion de la circulation dans les grandes villes, mais pour la pollution, etc. Rien qu'en France, les chiffres nous disent plus de 35 millions de véhicules automobiles. On a peine à croire qu'il y a seulement 130 ans, tout ça n'existait pas encore, que l'automobile est quand même, qu'on le veuille ou non, une invention bien récente. Fermez les yeux. Enfin, je dis ça pour ceux qui ne seraient pas eux-mêmes au volant, bien entendu. Nous sommes à Paris, le 15 juin 1898. Nous franchissons les grilles du jardin des Tuileries depuis la rue de Rivoli. Alors, on est en 1898, hein, donc faut imaginer toutes ces belles dames en jupe longue, corsage rayé, grand chapeau à voilette, les beaux messieurs en canotier, moustache en guidon de vélo. Bref, la fleur fraîche à la boutonnière, hein, bien entendu. Le Paris de la belle époque, tout simplement. Et que se passe-t-il dans ce jardin des Tuileries? Eh bien, il y a une exposition qui a été organisée sous de grandes toiles de tente, sur une surface qui fait 6000 mètres carrés tout de même. On a installé des rocailles, des fleurs, des petites fontaines, etc. Et pour compenser, comme l'écrit le journaliste Paul Meillant, ce que pourrait avoir d'un peu trop raide à la longue la vue de trop nombreux engins mécaniques, on a voulu de la verdure. Un bar, un buffet, un restaurant, un orchestre, tout ça a été disposé sous d'élégants véloms. Et dans cette atmosphère, deux kermesse, on a réuni des engins qui, évidemment, fascinent le public de l'époque parce qu'on n'a jamais rien vu de tel. On est tout à fait au tout début de l'automobile. L'organisateur de ce salon, car on doit pouvoir parler du premier salon de l'auto d'une certaine manière, le titre exact, c'est Exposition internationale d'automobile. L'organisateur, c'est l'Automobile Club de France qui a été créé en 1895 seulement, c'est-à-dire il y a quoi, 3-4 ans. Cet Automobile Club de France a été créé par des passionnés à l'issue d'une célèbre course Paris-Bordeaux-Paris, 1200 kilomètres parcourus par Levassor en 48 heures. Et donc on s'est retrouvé après ça. Voilà, c'est le comte de Lavalette qui a déclaré à quelques pionniers réunis là au Café Riche. Il faut absolument faire de nouvelles courses, c'est la meilleure publicité pour notre industrie. Oui, industrie, c'était vraiment les tout débuts, on devrait presque parler encore de manufacture. Ce qu'il faut surtout, a dit Monsieur de Dion, c'est créer un organisme qui s'en charge. Voyez le bien que le Jockey Club a fait au sport hippique. Il faudrait un Jockey Club de l'automobile. Un automobile club, en quelque sorte, a dit le baron de Zuylen. Mais c'est ça. Un automobile club. De Dion a proposé d'adopter des statuts qui seraient analogues à ceux de l'Union des yachts français. On a retenu le projet et la première réunion de l'Automobile Club de France a eu lieu chez Monsieur De Dion en octobre 1895. Et l'année suivante, au cours d'un grand banquet d'inauguration dans les locaux de l'Automobile Club, place de l'Opéra à l'époque, et c'était pas encore place de la Concorde à cette époque-là, c'est le physicien Marcel Després qui va lever son verre et qui va dire « Je bois au temps prochain où la voiture automobile fera une moyenne non plus de 24 km à l'heure comme aujourd'hui, mais de 50 km heure, peut-être même de 60. » Et à ce moment-là, le Levassor s'est penché vers son voisin et lui a murmuré à l'oreille « C'est tout de même triste qu'à l'issue d'un bon déjeuner, il y ait toujours un exalté pour dire une énorme sottise. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors revenons à notre exposition des Tuileries en 1898. Il a fallu évidemment montrer patte blanche pour avoir le droit d'exposer dans cette espèce de grand salon. Et sous la première tente, quand vous arrivez par la porte de Castiglione, vous avez des voitures électriques. Mais oui, le double stand Gento expose 6 voitures, un coupé 3 quarts à 4 places, un coupé à 2 places type fiacre et un landaulet qui se couvre et se découvre instantanément. Voilà des véhicules qui sont électriques. Le pétrole a beau dominer cette toute jeune industrie, puisque plus de 90% des engins exposés sont des véhicules à pétrole. Vous voyez qu'il y a encore des gens qui croient aux véhicules électriques. Ce qui est très amusant, c'est que lorsqu'on parlait de ça, je me rappelle de conférences il y a, je sais pas, 20 ou 25 ans, ça faisait sourire. Aujourd'hui, on se dit que ces gens étaient peut-être tout simplement des visionnaires. La vapeur n'a pas disparu tout à fait non plus. Elle est simplement réservée au transport en commun, la vapeur, ou à quelques machines professionnelles, notamment les machines agricoles. En fait, on est encore au beau temps des tâtonnements, des incertitudes. On sait que la voiture va s'en aller conquérir les sommets de l'industrie et du commerce, mais à cette époque-là, on ne sait pas encore comment. Entre parenthèses, je parle de voiture. Attention au terme. À l'époque, quand on dit voiture, c'est forcément une voiture hippomobile. C'est forcément une voiture qui est tirée par des chevaux. On va adopter le terme automobile. Mais alors, automobile, l'engin qui se déplace tout seul. Bon, ça, c'est tout simple. Mais est-ce qu'on doit dire un automobile ou une automobile? L'Académie française a tranché. Il s'agit d'un mobile. Un mobile qui est autopropulsé, donc on doit dire un automobile. Là-dessus, l'Académie ne transigera pas. Oui, sauf que le public, lui, a pris l'habitude de dire une automobile. Et vous savez bien que c'est le public qui a toujours raison. On a vu tellement de cas dans lesquels l'Académie a été comme ça battue sur son propre terrain. Donc on dira bien une automobile, on ne dira pas une voiture. Encore une fois, la voiture, c'est la voiture à cheval. Un cheval qui, du reste, manque à tout le monde. On a été tellement habitué, toujours depuis tant de siècles maintenant, à monter dans des caisses qui sont tirées par des chevaux. Voilà ce que nous dit Arsène Alexandre. C'est une chronique qui date justement de 1898. Les automobiles laissent beaucoup à désirer esthétiquement, dit-il. Malgré lui, l'œil cherche les chevaux. Ce sont des voitures comme les autres dont on paraît avoir oublié simplement l'attelage. La première locomotive ne souleva pas cette remarque désobligeante. On vit fort bien que c'était une mécanique nouvelle et l'œil, bien qu'elle fût absolument neuve pour lui, l'accepta d'emblée. Les automobiles sont des machines. Il faut donc qu'on le voie si l'on veut n'éprouver aucune gêne en les regardant. Le défaut de la plupart, c'est qu'elles sont actuellement des machines déguisées et c'est pour cela qu'on les déclare couramment laides. Maple Leaf Rag de Scott Joplin, interprété au piano par Lang Lang.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
D'ailleurs, je reviens un instant sur cette histoire de chevaux qui manquait à l'esthétique, à l'habitude qu'on avait prise, tout simplement. On se demande pourquoi on n'aurait pas laissé le moteur en dehors de la voiture elle-même, comme s'il y avait un petit tracteur qui aurait pris la place du cheval et la caisse qui était tirée de la façon la plus habituelle du monde. Ça a été notamment la conception d'un inventeur lyonnais, il s'appelait Joseph Mille, qui avait imaginé que ce tracteur pourrait carrément prendre la forme d'un cheval mécanique en tôle, ce qui fait que les gens auraient été un peu moins surpris. En fait, ils auraient vu la voiture circuler derrière un cheval. Et on a des dessins que j'ai là sous les yeux qui sont assez extraordinaires. Le brevet qu'avait fait ce monsieur Joseph Mille date du 6 juillet 1897. L'invention objet de la présente demande consiste dans un tracteur complètement indépendant de la voiture et renfermé dans une enveloppe affectant la forme du cheval, dit-il. Pourquoi pas, après tout. Il y avait d'ailleurs un humoriste à l'époque qui avait fait une blague, qui avait dit que le grand capot qu'on voyait à l'avant des nouvelles automobiles, c'était un cercueil destiné à enterrer le cheval dont on n'avait plus besoin. Bon, toujours est-il qu'il faut que les esprits se fassent peu à peu à cette invention tellement nouvelle, tellement inattendue, bien entendu. Si vous revenez dans notre exposition de 1898, vous voyez bien que les gens sont là à se précipiter, à essayer de faire démarrer les moteurs. Vous savez qu'à l'époque, tout ça démarre à grands coups de manivelle. Et alors, quand le moteur se met à octer, on est tout simplement sidéré. On aime beaucoup voir ces engins qui ont l'air de se déplacer tout seul. C'est comme s'il y avait comme une magie, bien entendu. Et Dieu sait pourtant qu'effectivement, on était depuis longtemps habitués à voir les trains se déplacer d'eux-mêmes. Mais ça ne fait pas le même effet. Quand vous avez ce petit véhicule qui commence à emprunter les allées du jardin des Tuileries et à se déplacer tout seul, ça fait rire les gens, ça fait ouvrir les yeux. C'est extraordinaire. Et l'exposition est un triomphe et la presse se bouscule, bien entendu. Le président de la République lui-même va venir visiter l'exposition la veille de la fermeture. Hein, le président fort n'est pas très aimable. Hein. Vos voitures sont bien laides, dit-il à un constructeur. Et de surcroît, elles sentent bien mauvais. Je suis pas sûr d'ailleurs que à une époque où il y avait plus de 100 000 chevaux à l'intérieur d'une ville comme Paris, l'odeur ait été tellement plus agréable. Enfin, c'était une odeur plus naturelle, ça incontestablement. Voici ce que nous dit le Parisien du 3 juillet 1898. Il faudra tenir la première exposition de l'automobile pour un véritable événement. Et ça, je trouve que c'est un des aspects les plus étonnants et intéressants de cette époque et de cette période de pionniers de l'automobile, c'est que d'emblée, on a été conscient de l'importance de l'invention. Elle n'a pas été en soi négligée. D'ailleurs, dès l'année suivante, on récidive dans le même jardin des Tuileries dans lequel on a mis encore plus de palmiers, encore plus de fleurs pour essayer de camoufler le côté un petit peu déplaisant de ces mécaniques qui font beaucoup de bruit et qui polluent pas mal l'atmosphère. On a installé 4 orchestres et en un seul dimanche, je dis bien en un seul dimanche, on va faire plus de 10 000 entrées. Le succès est tel que la maison Panhard-Levasseur, qui sortait pourtant 35 voitures par mois, impose à ses clients à partir de 1899 un délai d'attente de 18 mois. Et encore, on ne donne pas de garantie de date parce que il faut payer à la commande un tiers du prix, mais on ne peut pas garantir exactement le délai. Et ensuite, on livre au candidat chauffeur, parce que c'est ça, hein, c'est une aventure pour chacun. On livre un châssis, et sur ce châssis, eh bien, il va falloir faire une carrosserie. Et alors à ce moment-là, on va carrément chez le carrossier, qui était l'ancien carrossier qui faisait des voitures à cheval, hein, et on demande au carrossier de fabriquer une caisse qu'on installe sur le châssis. Et là, il faut compter 6 mois encore. Et évidemment, ça dépend des commandes de landau ou de calèche qui ont été faites au carrossier, qui n'a pas que l'automobile dans ses préoccupations. On voit de moins en moins de grosses voitures, lit-on dans le Figaro, et presque plus de mastodontes. Les constructeurs ont tous essayé de mettre au point un modèle simple, facile à établir, d'une conduite aisée et par conséquent d'un prix réduit. Une économie de consommation est réalisée grâce à un régulateur qui fonctionne à l'arrivée des gaz du moteur. Le type de la voiture s'est écrasé, aplati, nous dit Georges Prade. La voie s'est élargie, par leur forme, les modèles se rapprochent des voitures de course. Nous notons un remarquable souci de présenter au public quelque chose d'intelligent et de raisonner. Et oui, ça va être l'une des grandes innovations en ce passage vers le 20e siècle, c'est que on ne livrera bientôt plus seulement au client le châssis, on lui livrera carrément la voiture complète. Ah, vous avouerez que c'est un petit peu plus facile quand même. Thank you. L'Orchestre symphonique de Saint-Louis sous la direction de Leonard Slatkin interprétait ce pling-plong-plunk de Leroy Anderson.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est évident que l'automobile n'est pas née comme ça du jour au lendemain. C'est le fruit d'une très très longue histoire. Il a fallu des siècles en vérité pour que l'idée se développe. C'est Christian Tavard qui a raconté comme ça dans le moindre détail. C'était dans un bel article d'Historia. Tout ce qui a précédé l'automobile et ça remonte très loin. Dites-vous que au XIIIe siècle, je dis bien au XIIIe siècle, Roger Bacon, c'est le grand théologien anglais, pensait que par la science et par l'art, il serait possible d'établir des chars se mouvant avec une merveilleuse promptitude sans le secours d'aucun animal de trait. Vous voyez, ça faisait déjà... On pensait à ça déjà au XIIIe siècle. Et vous savez que Léonard de Vinci avait créé cet engin automoteur qui était mu par deux ressorts semi-elliptiques, des ressorts tendus à l'aide de manivelles et qui permettaient de se déplacer. C'était un engin incroyable. Alors, à l'époque, c'était surtout destiné à aider les machinistes de théâtre. Mais enfin, c'est pour vous dire que l'idée d'un engin automoteur, d'un engin automobile, ça remonte au moins au XVe siècle. Alors, il a fallu inventer, justement, à la fin du XVe siècle, toute la notion de soupape. Il a fallu découvrir la force de la vapeur. Il a fallu inventer les questions d'engrenage, de changement de vitesse. Il faudrait raconter tout ça. C'est Hoche, on est là au XVIIe siècle, qui, grâce à un mécanisme à ressort et à engrenage, avait réussi en 1649 à faire rouler un engin à la vitesse de 1500 mètres à l'heure, 1,5 km à l'heure. Et puis, un siècle après, en 1748, un autre mécanicien que nous connaissons mieux, parce qu'il est français, c'était Jacques de Vaucanson. Vaucanson, le créateur des automates, hein, bien sûr. Vaucanson avait construit un carrosse automobile avec des ressorts et des engrenages, et il avait présenté son carrosse automobile devant le roi Louis XV, qui avait trouvé ça amusant, simplement. On ne comprenait pas à l'époque que c'était l'avenir de la locomotion, bien entendu. Voici ce qu'en 1770 nous dit le célèbre Bachaumont. On a parlé il y a quelque temps d'une machine à feu pour le transport des voitures et surtout de l'artillerie, dont monsieur de Gribeauval, officier en cette partie, avait fait faire des expériences qu'on a perfectionnées depuis, au point que mardi dernier, la même machine a traîné dans l'arsenal une masse de 5 milliers, c'est-à-dire 2447 kilos, servant de socle à un canon de 48 du même poids ou à peu près, et a parcouru en une heure 5 quarts de lieue, c'est-à-dire 5 km, la même machine doit monter sur les hauteurs plus escarpées et surmonter tous les obstacles de l'inégalité des terrains ou de leur affaissement. On a vu ensuite des gens comme Cugnot, bien entendu, puis le grand ingénieur, monsieur de Planta, hein, qui vont présenter à Choiseul des inventions, dont une machine à vapeur pour l'artillerie, une autre qui va servir dans les jardins pour déplacer les arbres, etc., etc. En 1778-80, c'est un Français que quasiment personne ne connaît, qui va faire rouler à Amiens la première voiture à vapeur. Il s'appelait Charles Dallery. On a complètement oublié la trace de ce monsieur, mais quand même, sa voiture était propulsée par une chaudière tubulaire avec différentiel de transmission. On était donc extrêmement près de la notion du moteur moderne. C'était un dispositif extrêmement innovant et encore une fois, on était une dizaine d'années avant la Révolution française.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors je reviens à mon exposition de 1898. C'est la première fois qu'un salon pour l'automobile a été créé distinct du célèbre salon du cycle, qui à l'époque était vraiment très important. On n'imagine pas l'importance de la bicyclette à la belle époque. Pour être tout à fait exact, le premier vrai salon de l'auto, qui portait pas encore ce nom, qui lui ne viendrait qu'un peu plus tard, a eu lieu sous la verrière du Grand Palais, comme un grand nombre d'autres, n'est-ce pas, au début du XXe siècle. Il a ouvert le 25 janvier 1901. Ça a été vraiment vraiment, ça a été vraiment le grand événement. Et c'était toujours à l'initiative de l'Automobile Club, bien entendu, c'est-à-dire du baron de Zuylen, du marquis de Dion, de Monsieur Rives, qui en était le commissaire général. On comptait déjà dans ce premier salon de l'auto en 1901 quelques 800 exposants. Il y avait des voitures 4 places, près de 3000, 5286 voitures 2 places et 11 252 motocycles en France à cette époque. C'est-à-dire que si on fait le total, ça faisait moins de 20 000 véhicules automobiles en France à cette époque. Ce qu'on appelait les motocycles, c'était des espèces de petits triporteurs assez pétaradants, qui devaient être assez amusants, qui font un peu penser à nos quads, si vous voulez. Bref, il faudra que l'industrie du pneumatique fasse des efforts et des progrès considérables. Il faudra qu'on développe partout l'asphalte, il faudra qu'on installe le pare-brise, très important le pare-brise, parce qu'à 60 km/h, la collision avec un simple papillon peut devenir extrêmement désagréable, bien sûr, quand on roule vraiment très vite. Bref, il faudra toutes ces modifications et transformations pour rendre l'automobile, pour la rendre plus facile, plus accessible, pour la rendre tout simplement populaire. On conduit à gauche en France, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que les cochers, quand ils montaient sur les voitures hippomobiles, avaient pris l'habitude de s'asseoir sur la place de gauche, donc ça c'est une habitude qui a été prise comme ça, tout simplement. On raconte que c'était une question, que le sens de la circulation est lié autrefois à l'armement des cavaliers, etc. Je pense que c'est surtout l'habitude qu'avaient prise les cochers qui va jouer un rôle absolument essentiel. Et puis, peu à peu, on va voir cette automobile devenir de plus en plus belle. Au début, elle n'est qu'un engin, diabolique, extrêmement pratique, mais qui n'a rien de très beau. Et puis, petit à petit, on va se mettre à la trouver belle. Dans la revue des Deux Mondes, en 1907, voici ce qu'écrit Robert de la Cizeranne. Il parle de la beauté des machines. Dans son évolution définitive, dit-il, le monstre mécanique ramène à lui toutes ses antennes, réduit et rentre ses pattes visibles, se ramasse tout entier dans sa coquille et cherche dans les couleurs éclatantes à rehausser sa forme de scarabée.
Vous écoutez Radio Classique.
Partout en France, la Fondation du patrimoine fédère les énergies pour sauver une chapelle, un moulin, un lavoir, une forêt, pour rouvrir un musée ou restaurer un théâtre. Ensemble, soutenons la Fondation du patrimoine, donnons un avenir à notre histoire. Et tous les jours, sur Radio Classique, retrouvez des personnalités qui témoignent de leur attachement à leur lieu de cœur dans Au cœur du patrimoine, avec la Fondation du patrimoine. Vous aussi, partagez votre passion. Faites un don sur fondation-patrimoine.org.
Près de 19% de nos revenus dorment selon l'INSEE. Et si cet argent travaillait pour vous ? Investir, c'est possible, mais pas toujours simple de s'y retrouver. Ce soir, rendez-vous à 19h sur quorum.fr dans Focus Investissement, l'émission animée par Guy Lagache qui vous donne toutes les clés pour investir. Rendez-vous sur quorum.fr, quorum.fr.
Territoires enneigés et enivrants se déploient à la scène musicale. L'archet de la violoniste Lia Petrova vous guide dans l'hypnotisant concerto pour violon de Mendelssohn avant de plonger dans le rêve d'hiver de la première symphonie de Tchaïkovski. Un voyage par l'Orchestre Symphonique des Flandres, dirigé par Martin Dendievel, à retrouver ce 21 janvier à la scène musicale.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non ? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon ?
Ah ben des lasagnes ! C'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait ! On passe par le marché d'abord, et ensuite on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur O2.fr.
Peugeot. Impossible de résister aux leaders de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169€ par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2500€. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
...14h30, 18h, les heures légères, avec Élodie Fondacci, sur Radio Classique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. C'est comme toujours un grand bonheur de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 18h. Nous sommes le 14 janvier. Eh bien, le 14 janvier 1875, naissait à Kaiserberg, en Alsace-Lorraine, Albert Schweitzer. L'Alsace étant annexée, Schweitzer est citoyen allemand, mais parfaitement bilingue et européen avant l'heure, bien sûr. Toute sa vie, cet homme universel, qui fut à la fois pasteur, théologien, philosophe, médecin et musicien, il interprétait merveilleusement les œuvres de Jean-Sébastien Bach à l'orgue, voulut être un homme au service des hommes. C'est l'hôpital qu'il développa dans la forêt équatoriale au Gabon, à Lambaréné, à partir de 1913, qui le fit connaître dans le monde entier, et c'est son engagement inlassable auprès des autres êtres humains qui lui valut en 1952 l'attribution du prix Nobel de la paix. Rendre hommage à ce personnage à la fois fascinant et un peu méconnu, précurseur de l'action humanitaire, de l'écologie, de l'antispécisme et même du désarmement nucléaire, est l'objet de notre émission du jour. C'est une sorte de biographie musicale d'Albert Schweitzer que je vous propose aujourd'hui. Les scènes alsaciennes de Jules Massenet. Nous écoutions Sir John Eliot Gardiner et l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo. Albert Schweitzer naît donc en Alsace-Lorraine, rattaché alors à l'Empire allemand, et son enfance va être nourrie de cette culture double, à la fois germanique et française. Alors très tôt, il est baigné dans la religion, puisque son père est pasteur, et il s'initie à la musique. Il va prendre des leçons de piano et d'orgue, et dès 9 ans, il joue magnifiquement. Voici tout de suite de l'orgue, justement, grâce à Ton Koopman. C'est le choral Schubler numéro 1 de Jean-Sébastien Bach que nous partageons tout de suite. Anton Koopman dans ce choral Schubler numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, Wahret auf, ruft uns die Stimme, à l'instant sur Radio Classique, pour illustrer donc cette histoire de Albert Schweitzer, qui devient organiste très jeune enfant. L'orgue va être son instrument de prédilection et il va recevoir à Paris les enseignements de Charles-Marie Vidor, compositeur célèbre, organiste de l'église Saint-Sulpice. Je vous propose de l'écouter car Vidor était aussi compositeur. Son concerto pour piano numéro 1 est interprété par Marcus Becker. Thank you.
Terry Fisher et l'Orchestre symphonique de la BBC des Pays de Galles et au piano Marcus Becker, nous venons d'écouter le final allegro du premier concerto pour piano de Charles-Marie Vidor. Bach, à présent, la passion selon Saint Matthieu, Bach qui a été le compositeur de prédilection avec Beethoven du grand homme Albert Schweitzer dont nous parlons aujourd'hui, c'est « Ich will dir mein Herz », un air de soprano de la passion selon Saint Matthieu que nous écoutons ensemble. Masaaki Suzuki dirige le Bach Collegium Japan. Le Bach Collegium Japan et Masaaki Suzuki dans cet extrait de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Schweitzer va entreprendre des études à l'université de Strasbourg en philosophie et en théologie, tout en s'adonnant bien sûr à la musique, et soudain, il a une révélation. Il veut se mettre au service de l'humanité, et pour ce faire, eh bien, c'est la médecine qu'il va choisir. Nous allons écouter tout de suite justement la musique du film Doctor's Orders qui a été composée par Leroy Shield. Thank you. Musique de Doctor's Orders, un Laurel et Hardy, figurez-vous. C'est Alessandro Simonetto qui était au piano et qui nous interprétait cette bande originale signée Leroy Shield. Pour vous rappeler donc, Albert Schweitzer a choisi la médecine. C'est dans la médecine qu'il va trouver le souffle nécessaire pour donner vie à son projet humanitaire. Il sera diplômé à Strasbourg en 1905, habilité à pratiquer la médecine quelques années plus tard, et son regard va se porter vers l'Afrique où il va embarquer, notamment au Gabon. On en reparlera entre 17h et 18h, mais pour l'instant, je vous propose de marquer une pause.
2026, saison Mozart au Collège des Bernardins, avec 50 concerts. Une année inédite. Retrouvez l'intégrale des 41 symphonies, des 18 sonates pour piano et des 12 motets avec des grands noms de la musique. David Frey, Deborah Waldman, Jean-Marc Louisada. Mozart au Bernardin, 50 concerts dès le 15 janvier 2026. Programmation sur collegedesbernardins.fr.
Radio Classique vous invite au Théâtre des Champs-Élysées pour découvrir les interprétations sublimes et passionnées de la célèbre pianiste Alice Sarah Ott dans les plus belles pièces de Beethoven et les Nocturnes de John Field. Ne manquez pas le récital d'Alice Sarah Ott le 21 janvier à 20h, précédé d'une présentation des œuvres par Pauline Lambert. Réservation sur théâtrechampselysees.fr.
Radio Classique, la musique avant tout.